Bonjour et bienvenue sur la psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres, mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview. Alban, vous êtes haut potentiel sensible, ce que l'on qualifie aujourd'hui de profil HPI et HPE, et vous êtes également auteur de livres, producteur de radio, compositeur et chroniqueur musical. Dans votre livre « Itinéraire d'un haut potentiel sensible », vous racontez votre parcours, de votre enfance à aujourd'hui, en expliquant comment vous avez vécu ces caractéristiques particulières et comment vous avez su, au fil du temps, en faire une force plutôt qu'une difficulté. Ce livre est également un témoignage permettant à d'autres personnes ayant des parcours similaires de mieux se comprendre et de pouvoir fonctionner en fonction de leurs besoins spécifiques. Alors pour commencer, nous allons parler de votre enfance. Vous expliquez que vous vous êtes toujours senti étranger au monde qui vous entourait et on vous a fait passer un test à vos 5 ans qui révèle alors un QI de 160, donc ce qui est exceptionnel puisque la moyenne des adultes se situe autour de 100. Et là, on rappelle, vous avez 5 ans. Quel était votre regard sur le monde quand vous étiez petit et qu'est-ce qui vous faisait sentir être différent ?
Ah, ce qui m'a fait sentir être différent, c'est vraiment le regard des autres, on va dire, parce que je me voyais la différence surtout dans le regard des autres. Et après, je voyais que je ne réagissais pas pareil, que des choses qui pour moi étaient très fortes ou très perturbantes ou simplement très intenses, ce n'était pas pour les autres. Mais ce que je voyais surtout, c'est le regard des autres. C'est comme par exemple, on m'a fait passer le test de QI parce que je savais déjà lire et écrire sans avoir appris, sans avoir fait d'apprentissage. Et en fait, l'éducation nationale s'en est rendu compte que quand j'avais 5 ans, et c'est parce que je suis né en fin d'année, donc quand je suis rentré à l'école primaire, mais en fait, je le savais déjà lire et écrire depuis 2 ans. Et rien que ça, quand mes parents s'en sont rendus compte, le regard de mes parents là-dessus, c'était qu'il y a un truc bizarre, il y a un truc pas normal. Donc c'est là, je la vois bien la différence, c'est dans le regard où on me regarde comme si un truc que moi je trouve tout à fait naturel, on regarde comme si, mais d'où ça sort, qui c'est celui-là, ou comment ça se fait que, enfin. Donc la différence, je la vois surtout là, et c'est quelque chose en plus qui est assez, oui, choquant ou déstabilisant, je sais pas, parce que... on comprend pas, et puis ouais, en plus on a trop tendance, je pense, quand on est enfant, à penser qu'on est tout le monde est comme soi, ou alors on est tout le monde différent. En tout cas, enfin, il y a quelque chose là qui est difficile à comprendre, pourquoi il y a une différence vis-à-vis d'un groupe. Puis c'est vrai que c'était à peu près aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants, même si c'était beaucoup plus confortable et facile, on va dire, les relations avec les adultes quand j'étais enfant. Mais on voyait quand même aussi qu'il y avait une différence. Puis bon, après, une fois que le test était officiel, on va dire, là, il y avait toujours une différence. Enfin, là, je la ressentais tout le temps, puisque j'étais plus identifié en tant qu'Alban, mais en tant que le surdoué. Donc voilà, ça devenait une espèce d'identification, d'identité très particulière qui me mettait toujours... voilà, il n'y en avait qu'un comme moi, parce que j'étais toujours le seul, hein, aussi bien dans le quartier, dans l'école, dans la famille, dans l'établissement, enfin, et ce jusqu'à la fin de ma scolarité. Donc il y avait un côté toujours d'être celui qui était à part, vraiment. Ce n'était pas une différence partagée par d'autres, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre vraiment des années et des années pour que je comprenne que s'il y avait différence, ce n'était pas une différence par rapport à tout le monde. Ce qu'on pouvait me renvoyer vraiment quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant, on me renvoyait un peu le côté cas unique.
Ce qui était un peu le cas, en l'occurrence.
Oui, mais... oh, je pense que s'ils avaient fait plus de tests aussi, ils auraient pu en trouver d'autres. Hein, mais en tout cas, voilà, de ce qui était reconnu, officialisé. Oui, c'était...
Et comment vous perceviez, quand vous étiez petit, alors peut-être un peu plus tard que 5 ans, 6 ans, mais le monde, la société, de ce que vous en voyiez à l'époque, parce que vous réfléchissiez beaucoup, quelle analyse vous en faisiez ? On lit dans votre livre que parfois, il y a plein de choses que vous trouvez complètement absurdes, mais à un âge très, très jeune.
Oui. Alors, il y a différentes choses, hein. Je peux partir dans différents sens avec la question. Parce qu'il y a un côté où, déjà quand je suis enfant, jusqu'à 8-9 ans, oui, il y a un côté où il y a une boulimie de savoir, une boulimie de connaissances, d'apprentissage, et donc je voudrais tout lire et tout savoir sur tout. Enfin, et donc ce côté-là, c'est plutôt une ouverture sur le monde, c'est-à-dire que j'ai envie de tout connaître, tout savoir, tout expérimenter, et j'ai l'impression que c'est possible en plus, c'est ce mirage assez incroyable de penser que c'est pour ça que j'aime pas dormir, que j'aime pas m'arrêter, parce que je me dis il y a tout à apprendre, et puis c'est possible, comme s'il y avait une espèce de challenge comme ça, à pouvoir un moment où tout fait sens et on comprend tout. Et donc même dans mes incompréhensions, dans l'absurdité que je vois, ça me motive encore pour me dire oui, mais c'est parce que j'ai pas tout compris. Donc il faut encore que j'apprenne, que je comprenne beaucoup de choses, que j'assimile beaucoup de choses pour comprendre tout ce qui se joue. Donc ça, c'est le côté ouverture, en tout cas le côté l'envie de connaître, de comprendre, vraiment boulimique de savoir, de connaissance. Et puis après, il y a le côté où ce que je vois surtout des personnes qui m'entourent, c'est. Là, je ne comprends pas les comportements. Puis, comportement, c'est peut-être pas le seul mot. Je ne comprends pas la manière de penser des gens. Bah, c'est vrai que, comme je le dis, hein, c'est vrai que les adultes, souvent, me paraissent ne pas. Paraissent pas explicables la façon dont ils se comportent. Et même, des fois, j'anticipe des trucs qui me paraissent évidents et eux, ça a l'air de les surprendre. Et je ne comprends pas comment ça peut les surprendre parce que je me dis, ils ont plus d'expérience que moi. Ils devraient voir arriver le truc plus facilement. Et puis, non. Enfin, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Surtout, l'incompréhension, elle est surtout du monde qui m'entoure de façon directe. Ce que je perçois dans les livres ou dans la société comme ça, il y a des trucs que je ne comprends pas bien, mais je me dis que je peux comprendre. J'ai plus de. C'est très étrange, hein, mais j'ai plus de confiance à pouvoir comprendre la société dans son ensemble qu'à pouvoir comprendre vraiment le comportement des gens comme ça que j'observe qui m'entourent. Parce que là, vraiment, ça me paraît très très absurde. Et en quel point que je me dis, mais c'est pas possible, ils font exprès. Enfin, c'est souvent ce côté-là que j'ai quand j'ai enfant, je me dis, ils agissent ou ils se comportent d'une façon comme s'ils ne savaient pas, mais ils ne peuvent pas ne pas savoir. Donc en fait, ils font semblant de ne pas savoir. J'arrive à des trucs très tordus comme ça dans ma construction, à me dire qu'en fait, les choses ne sont pas comme je les vois, mais qu'elles sont jouées parce qu'au contraire, ils arrivent mieux à contrôler certaines choses et puis ils font des subtilités que je ne comprends pas. Enfin, voilà, c'est comme quand j'ai fait le test aussi de QI qu'on m'a donné. Je me suis dit non, ça m'a semblé trop simple. Il y a sans doute plein de subtilités que je n'ai pas compris parce qu'on m'a présenté ça comme un truc qui avait l'air très compliqué. Oui, à mes yeux d'enfant, on me présente ça comme un test là très sérieux et très compliqué. Et puis moi, je réponds ça de manière qui me semble assez évidente. Donc après, je me dis, bon, j'ai dû faire tout n'importe quoi parce qu'il y a toute une subtilité que j'ai rien dû comprendre, j'ai dû passer à côté de ce qu'il fallait faire vraiment. Donc il y a toujours ce truc où l'incompréhension, j'essaye de la combler ou j'essaye de l'apprivoiser, on va dire, en construisant des trucs très emperlificotés, très compliqués. Je complexifie du coup quelque chose qui me paraît absurde en me disant que si c'est absurde, enfin, disons que ce qui me paraît absurde, forcément, c'est parce que je ne comprends pas bien, mais qu'en fait, si j'arrive à beaucoup m'exercer et à beaucoup apprendre de choses et à beaucoup comprendre, je vais comprendre toute la complexité qui fait qu'en fait, ce n'est pas absurde. Et ce que je voulais dire sur la vision de la société quand j'étais enfant, c'était la société des autres enfants, particulièrement des autres garçons, que je trouvais particulièrement absurde, oui, parce que je ne comprenais pas du tout leur jeu, puis leurs préoccupations, mais leur jeu qui était très dans la compétition et même dans la jouer à la guerre et tout ça, et ça c'était quelque chose qui me. Alors déjà, il y avait l'absurdité, puis il y avait le côté émotionnel, où vraiment je ne comprenais pas, puis que ça me heurtait très fort, et que c'était même c'est plus que heurter, c'était très déstabilisant. J'avais l'impression vraiment d'être dans un monde hostile, dangereux du coup, et puis non seulement absurde et un peu bête et méchant, mais en plus dangereux. Donc il y avait ce côté de me sentir même un peu en danger avec la société des enfants. J'étais rassuré vraiment quand il y avait un adulte que je savais qui nous regardait, mais quand j'étais qu'avec des enfants, garçons, parce qu'avec les filles, il n'y avait pas ça, mais si j'étais avec d'autres enfants garçons, il y avait ce sentiment d'insécurité qui était très fort, et puis en plus quelque chose qui pour moi n'était pas explicable, quoi. C'est-à-dire que c'était. Je savais même pas ce que je pouvais penser de ça, parce que si j'intellectualisais vraiment beaucoup de choses, hein, mais si j'intellectualisais vraiment le fait que sérieusement ces enfants jouaient à la guerre, à ça, puis en plus j'ai le souvenir de certains enfants qui étaient dans ma classe à ce moment-là, même ils se mettaient peinture militaire et tout ça, c'était vraiment très réaliste, c'était vraiment jouer à la guerre, quoi. C'était pas juste une façon de parler. Donc c'était trop déstabilisant pour moi. Je pouvais même pas vraiment intellectualiser ça. Enfin, je pouvais même pas vraiment conscientiser ça parce que ça me déstabilisait trop, ça me heurtait trop.
Ça, donc là, en fait, vous parlez de votre hypersensibilité parce que vous êtes haut potentiel intellectuel et émotionnel.
Oui, enfin, je
Est-ce que
parle de la.
c'est lié pour vous, en vous, l'émotion et l'intelligence? Comment vous l'analysez?
Alors, c'est une grande question parce que je pense que, enfin, sur les bases, enfin, c'est sûr que c'est le côté sensibilité, mais à ce moment-là, je ne mets pas le mot dessus, hein. J'ai mis vraiment le mot hypersensibilité que l'année de mes 30 ans, hein, donc bien plus tard. Donc, c'est pour ça que là, je ne sais pas, je vis des choses comme ça, je les ressens comme ça, je ne mets pas vraiment de mots dessus. Après, sur la question au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, il faudrait d'abord dire un truc vraiment pour être un peu clair sur la notion au potentiel émotionnel, parce que pour certaines personnes, ça ne veut pas dire la même chose. Donc déjà dire que bon, on l'utilise beaucoup pour parler d'hypersensibilité, mais c'est vrai que ça fait référence au côté émotionnel, qui est aussi l'aspect sensoriel, donc ça peut être un peu incomplet quand on parle de l'hypersensibilité, mais ce que je veux surtout préciser, c'est que pour certaines personnes, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle qu'on mesure par le QE et tout ça, donc pour dire que là, oui, quand on va parler de potentiel émotionnel, quand vous parlez de potentiel émotionnel, vraiment, on parle d'hypersensibilité, juste pour clarifier, hein, pour les gens qui nous écoutent, dire qu'on ne parle pas donc de QE, hein. Alors après, la relation, ça, je ne sais pas exactement ce qu'il faut en penser. Beaucoup de gens, et puis c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien d'entendre l'année de mes 30 ans et qui a produit vraiment un déclic en moi, ont affirmé que les hauts potentiels intellectuels avaient une sensibilité plus forte que la moyenne, donc une hypersensibilité. Et bon, après, certaines personnes ont contesté. Je ne sais pas exactement si, enfin, surtout si on met l'aspect sensoriel et émotionnel, je ne sais pas vraiment ce qui est vrai là-dedans. Pour moi, ça, en tout cas, ça me paraît évident, aussi bien le côté émotif et sensoriel, parce que déjà le côté agressif, hein, je parlais des enfants, des réactions et tout ça, mais c'est rien que le côté, enfin quand on va à l'école, les lumières des néons, les bruits, les enfants qui hurlent, déjà ça pour moi c'était incompréhensible, déjà sensoriellement je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir tant d'agressions, alors que je ne pouvais pas mettre vraiment de mots dessus, mais enfin les odeurs, les sons très forts et très agressifs, et puis les lumières qui semblaient déranger personne. Là j'ai bien vu ma différence sur la façon dont les gens n'étaient pas dérangés, ni les autres enfants, ni même les adultes souvent, par les cris ou les lumières, les néons comme ça très forts dans la figure et tout ça, ou les odeurs aussi, et que moi ça m'empêchait vraiment de respirer, enfin je prends les odeurs par exemple, mais enfin ça m'agressait vraiment physiquement, et puis je voyais que les autres non, puis même si je leur parlais un peu de ça, oh, bon non, quoi. Donc là, je voyais bien la différence aussi sur l'aspect sensoriel. Donc moi, effectivement, donc on m'a détecté, enfin on m'a bilanté, comme on dit plutôt en Suisse, ou diagnostiqué, mais comme c'est pas médical, on ne dit pas forcément le diagnostic, donc surdoué, donc HPI quand j'étais enfant. Et puis, ça me semble évident que je suis hypersensible au niveau sensoriel, émotionnel, parce que c'était vraiment très, très marqué. La différence était vraiment très, très marquée quand j'étais enfant. Et puis, sans doute encore maintenant, puis je tremble facilement. Enfin, j'ai vraiment l'émotion très rapide, très facile et très forte, très parlante. Et puis, donc voilà, donc après, est-ce que c'est systématiquement lié? Je ne sais pas trop. Moi, il y a une certaine logique où j'ai l'impression que si un niveau du câblage neuronal et donc au niveau du cerveau, les choses sont un peu plus intenses et plus rapides, je me dis que ça devrait aussi jouer sur, en tout cas, moi, c'est ce qui me semblerait assez logique, que ça influe aussi, donc que ça amplifie. Pas seulement les pensées, la réflexion, mais que ça amplifie aussi tout ce qui est sensoriel ou tout ce qui est émotionnel. Donc voilà, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question dans son entier du coup,
Mais on
mais
va y revenir
oui.
différemment. Qu'est-ce qui, dans votre cheminement, donc de votre enfance à l'âge adulte, vous a aidé à vous épanouir, à prendre confiance en vous? Parce que je ne sais pas, est-ce que vous aviez confiance en vous quand vous étiez petit, sachant que vous vous ressentiez effectivement différent? Qu'est-ce qui vous a aidé, en fait?
J'avais vraiment aucune confiance en moi, particulièrement à l'adolescence, parce que j'avais été victime de harcèlement scolaire quand je suis rentré au collège. Et puis, déjà que j'avais. Alors, j'ai souvenir quand même, d'après ce que mes parents me disent aussi, d'avoir eu pas mal confiance en moi, mais vraiment dans mes toutes premières années, c'est-à-dire avant l'entrée en primaire. Avant qu'il y ait cette histoire de surdoué, même si je ne vois pas spécialement un rapport par rapport à ça, je pense que c'est juste déjà l'entrée à l'école primaire, mais il y avait une espèce de confiance avant qui était assez naturelle, assez innée, assez voilà, une certaine joie de vivre et un certain ouais, un côté un peu oui, très on va dire un certain épanouissement. Puis après, ça s'est plus ou moins éteint déjà à l'école primaire, et puis alors au collège, beaucoup, beaucoup, là, donc il n'y avait vraiment plus du tout de confiance en moi à ce moment-là. Et jusqu'à l'année de mes 30 ans, c'était assez faible, hein. C'est donc l'année de mes 30 ans, bah, notamment quand j'entends parler de livres sur l'hypersensibilité. Alors déjà, il y a deux éléments, mais qui arrivent en même temps avec la même personne. C'est la première personne que je rencontre qui me dit qu'elle est surdouée elle aussi. C'est dans ma seule expérience salariée de mon parcours. Et cette personne-là me dit que bah, me parle de livres sur le sujet que je ne connaissais pas. Et donc, ce qui est un espèce de déclic, mais vraiment de levier dans mon fonctionnement et dans la façon surtout dont je m'appréhende et donc par rapport à la confiance en soi, c'est de me dire déjà que les hauts potentiels intellectuels sont hypersensibles. Et donc, du coup, je me dis, tiens, ah oui, ça serait ça, ce truc dont j'ai peur et qui me submerge là comme ça. Et donc, du coup, j'en ai plus peur et je l'accepte et je le prends comme si c'était normal, entre guillemets. Et puis, le côté d'entendre parler aussi de l'hypersensibilité, notamment avec les ouvrages du Salvatore Thomas Zella, comme quelque chose de positif et puis qui concerne une bonne part de la, de l'humanité, enfin de la population. Et puis, bon, à l'époque, on parle plus de 20%, maintenant on est plus sur 30%, mais voilà, ça faisait une bonne part qui partageait ça, et puis c'était quelque chose qui pouvait vivre de façon positive. Donc, c'est ça vraiment qui m'aide beaucoup, parce que ça va vraiment lever le grand obstacle que j'avais de pas pouvoir me faire confiance, parce que je me disais que j'avais des réactions imprévisibles, que les gens me regardaient vraiment trop bizarrement, il y avait quelque chose qui clochait quoi, quelque part en moi, c'est ça que je me disais. Donc d'aller réparer ça, ça a été vraiment le truc qui change tout au niveau de la confiance.
Et alors du coup, quelles sont selon vous les caractéristiques principales, puisque vous connaissez un peu le sujet, sur vous mais sur les autres aussi, des personnes qui sont HPI et des personnes qui sont HPE? Pour les gens qui nous regardent et qui se posent des questions et qui n'ont pas fait de test, alors je ne sais pas s'il y a des tests HPE, mais en tout cas il y a des tests pour le quotient intellectuel, est-ce qu'il y a des choses qui sont assez évidentes?
Oui, je voulais redire par rapport à tout à l'heure, parce que c'est vrai que quand j'ai dit que c'était sans doute lié, enfin qu'il me semblait une certaine logique à ce que ça soit lié, c'est vrai que c'est plutôt dans le sens HPI qui sous-tendrait le HPE et pas l'inverse, parce qu'effectivement on peut être hypersensible sans pour autant avoir un quotient intellectuel au-delà du seuil de 130, même si selon les pays ça peut être 125 ou 135, mais c'est bien pour préciser ça, parce que c'est vrai qu'après on peut me dire, ah ben oui, mais moi je suis hypersensible et je suis pas, j'ai pas un QI particulier. Oui, dans ce sens-là, évidemment. C'est dans l'autre sens où il me semble avoir une certaine logique qui est un lien. Alors après, les caractéristiques. Alors HPI, il s'écrit beaucoup de choses là-dessus, et puis c'est vrai que je pense effectivement qu'on peut aller fouiller sur certaines choses, parce que si on vivait dans un cadre où c'était où il y a moins de décalage, parce que effectivement, est-ce qu'il y aurait les mêmes caractéristiques? Peut-être pas. Il y a certaines caractéristiques, je pense, qui se développent, c'est du fait qu'il y a un décalage avec les autres. Donc voilà, on va retrouver des caractéristiques qui sont pas forcément des caractéristiques du HPI, mais qui sont des caractéristiques d'être une minorité qui fonctionne différemment au sein d'une majorité. Voilà, c'est-à-dire c'est plutôt des caractéristiques d'être atypique que des caractéristiques d'être HPI. Donc c'est vrai que sinon les caractéristiques d'HPI, celles qui font consensus, il n'y en a pas énormément, hein, si ce n'est la vitesse de pensée plus forte. Après la pensée en arborescence, il y en a qui discutent le terme, qui est plutôt métaphorique, mais il y aurait quand même un côté où il y a plus de pensées divergentes. Donc on peut quand même avoir l'image d'une arborescence,
Une
même si y a.
arborescence plus poussée, moi c'est ce que j'ai lu dans
Oui,
les
en tout cas, qu'il y ait
études.
plus de pensées divergentes.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a à la fois la pensée va plus vite vers l'objectif. L'objectif, ça fait bizarre, on peut dire l'objectif, mais vers son but, on va dire. Mais c'est bizarre, je chercherai un mot autre. Mais, enfin, c'est-à-dire, la pensée va aller plus vite connecter ce vers quoi on se dirige, mais tout en ayant généré plus aussi de pensées divergentes en même temps. Donc c'est un peu ce côté-là qui est assez. Il y a eu des études notamment, mais je ne les ai jamais vues arriver en francophonie, ces études américaines qui montraient vraiment ça, les trajectoires au niveau neuronal de la pensée qui était à la fois beaucoup plus rapide, mais tout en ayant, en étant parti aussi sur des côtés, sur des trucs annexes. Donc là, c'était assez parlant. Et puis sinon, le côté hypersensibilité, alors là, il ne fait pas consensus, même si effectivement, il me semble avoir, en tout cas, dans une certaine mesure, une certaine logique. Après, il y a différentes constructions, hein. Il y a des gens qui se sont coupés aussi de leur émotion, ou même de leur sens, ou coupés plus ou moins, hein. C'est pas forcément. Enfin, mais qui se sont en tout cas carapacés d'une certaine façon, où c'est sans doute plus visible ou plus décelable, mais à l'origine, je peux penser qu'il y a sans doute quand même cette particularité-là, originellement, même si après la construction a fait que voilà, on s'est construit. Puis c'est tellement différent aussi suivant qu'on a été accepté, on va dire, ou en tout cas accueilli avec cette particularité-là ou pas. Parce que sinon, effectivement, si on grandit dans un milieu où on n'est pas accueilli dans sa spécificité, ben, on va développer toutes sortes de caractéristiques. Oui, manque de confiance, avoir l'impression d'être pas compris, et puis donc une certaine. Oui, enfin, on va développer toutes sortes de caractéristiques, mais ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, qui sont plus proches au fait d'être atypique dans un monde qui est en décalage. Après, là où je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de choses étayées, bizarrement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de test scientifique, surtout si HPE, on parle d'hypersensibilité, même s'il existe des tests, hein, pour l'hypersensibilité, mais c'est vrai que ce n'est pas des tests scientifiques comme il peut y en avoir pour l'HPI, bien sûr, et même depuis peu pour le QE, pour l'intelligence émotionnelle. Mais donc, dans le profil hypersensible HPE, HPE au sens hypersensibilité, bah, c'est la sensibilité plus forte que la moyenne. Au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, et puis c'est souvent aussi accompagné d'une plus forte empathie, de plus d'intuition, de créativité. Après, c'est toujours pareil, bon, après, il y a dans la construction de l'enfance si ça a été accueilli ou non. Après, je pense que l'âge adulte, c'est plus une histoire avec soi-même, suivant si on accueille sa sensibilité ou non. On va le vivre plus ou moins bien, et puis si effectivement on le vit plutôt de manière un peu négative, où ça nous submerge, où ça nous rend les choses, on a l'impression, en tout cas ça nous fait vivre les choses de façon plus compliquée, et en tout cas que ça nous pose des problèmes dans notre quotidien, à ce moment-là on aura peut-être moins le côté positif qui est plus sur l'intuition, la créativité et tout ça. Mais après il y a beaucoup de choses qui changent. Vraiment sur la haute sensibilité, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent suivant qu'on la vit bien ou qu'on la vit pas bien. C'est d'ailleurs même à un moment, on disait, on voulait mettre deux mots comme ça pour dire voilà, les hypersensibles, ce seraient ceux qui vivent plutôt négativement, et puis ultrasensibles, ceux qui vivraient plutôt positivement. Après, ça tient pas de faire ce distinguo-là parce qu'on parle beaucoup de manière générale d'hypersensibilité. Puis si on met vraiment un truc spécial négativement sur l'hypersensibilité, c'est dommage. Donc c'est pour ça que c'est pas bien non plus. Mais bon, c'est difficile de trouver au niveau sémantique, hein, comment bien parler de ça. Mais c'est vrai que c'est très différent suivant quand nos émotions et nos sens nous parlent plus fort. Ça devrait être un atout parce que c'est quelque chose qui nous aide à être plus juste, à anticiper des choses, à nous sentir le mieux possible. Mais si on a un cadre assez restrictif dans lequel on n'arrive pas à s'écouter ou tout ça, bah ça va devenir au contraire quelque chose qui nous empêche d'être bien là où on est, parce qu'en plus on cherche à l'étouffer, bah plus ça crie, on va dire, hein, donc plus ça cherche à se manifester de manière violente, ça peut faire peur, ça peut vraiment faire comme ce que je vivais jusqu'à l'âge de mes 30 ans, des moments de tétanie presque, hein, vraiment de paralysie et d'état où on est totalement submergé, où on peut plus du tout, on perd le contrôle, mais enfin c'est pas très bien d'avoir le contrôle non plus, mais en tout cas oui, on se laisse vraiment submerger, je cherche un autre mot, mais je vais redire celui-là. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'on peut avoir, c'est vraiment deux expériences, un peu deux côtés de la pièce. Hein, mais si c'était, et j'espère que ça l'est de plus en plus dans le monde, accueilli tôt et qu'on ne nous demande pas de nous endurcir, ou alors dire c'est dans ta tête, ou alors non, faut passer outre, ou faut. Non, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on le vivrait de façon positive en l'écoutant. Et puis si on s'écoute et puis qu'on. Eh ben, cette haute sensibilité, elle va au contraire nous aider. C'est un grand atout. C'est quelque chose qui nous guide. C'est ça, parce qu'on va beaucoup. On va, avec un seuil de détection plus bas, on va être beaucoup plus conscient de tout ce qui pourrait nous gêner plus tard, alors que si on est moins sensible, on va s'en rendre compte que quand vraiment ça nous a déjà bien affecté, alors qu'hypersensible, au début, on peut dire, ah bah oui, ça fait chochote ou tout ça, ou ça fait très, oh bah oui, mais non, t'es trop fragile, ou t'en fais trop, ou je sais pas quoi, tu réagis trop, oui, mais cette réaction plus forte à la fois, elle aide si on a les moyens de l'écouter et d'agir pour ne pas rester là, mais des fois on n'a pas trop le choix. Bon, des fois on peut essayer vraiment de se forcer, c'est pas non plus la bonne solution. Mais bon, il y a toutes sortes de configurations différentes. Mais cette haute sensibilité, elle nous guide, elle nous aide vraiment à nous mettre dans les meilleures dispositions, à nous mettre dans les meilleurs environnements. C'est vrai que ça peut être des fois assez fatigant, surtout quand on est dans des contextes où il y a vraiment des choses qui nous sont assez imposées, où on doit faire certaines choses dans certains cadres, et puis du coup, c'est compliqué, hein, ne serait-ce que sensoriellement, qu'on doit travailler dans des endroits où il y a beaucoup de mouvements, où ça fait beaucoup de bruit, où voilà, il y a des lumières très fortes, des odeurs, des machins. Oui, ça devient compliqué, mais si on a les moyens de s'aménager quelque chose comme ça, on va se mettre de manière durable, dans des meilleures conditions. J'ai l'impression qu'il y a vraiment toujours ce côté de durabilité. Parce que l'hypersensible, il passe pour quelqu'un souvent qui a du mal à faire les choses, ou qui est très. Qui se laisse trop facilement
Abattre.
abattre. Ouais. Alors que je trouve que c'est un peu le roseau et le chêne. C'est-à-dire que oui, il se laisse facilement abattre, mais à la fois. Il va revenir, et en s'écoutant, en se connaissant, avec ce fait de se laisser abattre facilement, finalement, enfin de se faire abattre facilement, lui permet d'être plus mobile, plus souple, et de moins se laisser gagner par des choses plus insidieuses, plus que la personne moins sensible ne va pas sentir. Elle va rester bien droite, bien solide, mais au bout d'un moment, elle peut, bah oui, bah c'est l'histoire du chêne et du roseau, elle peut du tout coup être plus fragile parce qu'elle a encaissé beaucoup de choses sans réagir, et qu'au bout d'un moment, donc elle peut être beaucoup plus fragile face à une certaine adversité que l'hypersensible qui, en réagissant toujours comme ça, a développé une espèce de souplesse et puis de capacité de réaction qui lui
S'il
permet
s'écoute.
d'être. Ah bah oui, c'est toujours pareil, hein.
C'est vraiment la base, hein, de ce que je comprends
Toujours
finalement.
pareil.
Les difficultés des HPI et des HPE, c'est de ne pas s'écouter en fait.
Oui, et souvent, enfin, je pense même de ne pas s'accueillir, c'est-à-dire de combattre qui on est. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu comme ça jusqu'à l'âge de mes 30 ans. C'est vraiment cette bascule incroyable que je décris, qui a été d'ailleurs le moteur aussi bien pour la création de Surdouessance que pour les livres que j'écris sur le sujet. C'est ce côté où avant je me battais contre moi-même parce que je me disais il y a quelque chose qui n'était pas normal. C'est ce qu'on me renvoyait. Le regard des autres me disait il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de pas normal, faut changer, c'est pas possible, tout ça. Et je ne savais vraiment pas comment faire. Et plus j'essayais de me battre contre moi, plus j'allais mal, parce que plus j'étais paralysé, plus c'était contre nature. Et puis en plus, tout ce que j'essayais de refouler, bah, ça faisait que crier d'autant plus, ça faisait que de se manifester de manière encore plus submergente, envahissante, paralysante. Donc oui, c'est une question déjà de s'accueillir qui on est, et de dire vraiment s'accepter, s'accueillir, enfin ça soit ensemble, mais c'est vraiment là que je pense que tout est. Parce que si on adopte le regard que les autres ont et qui nous renvoie la différence, et qu'on pense qu'il y a là quelque chose de problématique, là on est dans un schéma où tout devient très compliqué. Et ce que je voulais témoigner, parce que ça c'est toujours quelque chose que je trouve spectaculaire, c'est comment quasiment le même fonctionnement, à la différence près de l'assumer ou de ne pas l'assumer, on va dire, mais c'est quand même le même fonctionnement, les mêmes réactions. À l'époque où je ne m'acceptais pas, où j'étais plutôt en lutte avec moi-même, bah, ça me rendait. Ça m'isolait, on va dire, ça me marginalisait. Les autres me mettaient plutôt à l'époque, du coup, il est bizarre, et puis me mettaient de côté. Et puis à partir du moment où je l'ai assumé, accepté, bah, les autres avaient un regard du coup positif aussi là-dessus. Donc le regard qu'on porte soi-même change énormément le regard des autres. Bon, on va dire, c'est pas sensationnel, on va dire, on dit déjà ça souvent, hein, mais c'est assez incroyable de l'expérimenter quand même de manière assez spectaculaire, parce qu'on dit, on réagit la même chose, mais avant les personnes auraient dit, bon, il est vraiment trop bizarre, on passe à quelqu'un d'autre, enfin je veux dire, on lui parle plus, ou au contraire, ah ben oui, disons, c'est enfin.
Comment ça se manifestait concrètement pour les gens qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à exprimer qui ils sont? de haute sensibilité, par exemple, comment ça se manifestait avec les gens? Vous leur disiez ou vous leur disiez, bah non, mais écoutez, là, faut baisser la lumière. Comment ça se...
Ah, c'est pas forcément des... Oui, non, ça, j'ai pas vu trop de différence là-dedans. Mais c'est par exemple une réaction émotionnelle très forte. Au même stimuli, on va dire, au même endroit. À l'époque où je m'acceptais pas ou tout ça, j'étais submergé vraiment par cette réaction émotionnelle. Et la personne à côté n'avait aucun intérêt pour ça, parce que ça lui paraissait comme quelque chose de je sais pas, qui devait provoquer un certain malaise. En tout cas, c'est quelque chose qui faisait plutôt la personne tourner les talons, mais sans doute une espèce d'impuissance. Je sais pas ce qu'il peut y avoir vraiment là-dessus, mais en tout cas, quelque chose qui fait qu'on n'est pas à l'aise ou on n'a pas envie, du coup, d'échanger avec ces personnes parce qu'elle a cette réaction émotionnelle-là. Et puis après cette bascule comme ça, quand je me suis accepté de manière très positive, le même. Alors, pas avec les mêmes personnes, mais dans le même cadre, une même réaction émotionnelle comme ça, au contraire, ça suscite un espèce d'intérêt de la personne qui est touchée, on va dire, par le fait qu'on ait une réaction émotionnelle comme ça, si, mais parce qu'on est aussi, je pense qu'il y a aussi le fait d'être capable de plus la mettre en mots, parce que bien sûr, quand ça nous submerge et qu'on la vit mal, on essaie plutôt de l'étouffer, on n'en parle même pas, donc du coup, ça fait quelque chose de l'extérieur qui doit paraître très bizarre, parce que... On ne comprend pas ce qui se passe, puis ça a l'air trop. En plus, oui, enfin, c'est quelque chose donc du coup de très parasité, j'ai l'impression, qui se passe à ce moment-là. Alors que quand on a cette réaction émotionnelle-là, mais qu'on est un peu plus capable de l'extérioriser, l'autre déjà va mieux la comprendre. Donc c'est ça, souvent, il y a des personnes qui attendent d'être comprises pour s'accepter mieux, mais c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. C'est quand on s'accepte mieux qu'on
ça
est mieux compris.
Ça marche pour tout d'ailleurs. Ouais. D'accord. Du coup, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui justement vivent mal, alors ou leur haut potentiel intellectuel ou et leur haut potentiel émotionnel pour aller mieux, pour s'accepter des petites choses? Vous parliez de théâtre, vous dites que ça vous a aidé.
Oui.
Vous pensez que c'est bon, le théâtre aide en général pour la confiance en soi?
Ah oui, bon, le théâtre aide. Après, moi j'ai une expérience du théâtre un peu spéciale parce que c'est un prof d'histoire géo, donc quand j'étais en quatrième qui m'a dit un jour de me rendre dans une salle comme ça, puis je ne savais même pas du tout qu'elle s'occupait de théâtre, j'étais pas arrivé dans l'établissement depuis longtemps. Et donc elle m'a un peu forcé la main, on va dire, enfin c'est-à-dire elle m'a un peu pas laissé le choix, c'est-à-dire que je suis arrivé là, puis elle m'a dit tu vois on fait du théâtre, tu vas intégrer la troupe, et puis alors que si on m'avait demandé vraiment mon avis, j'aurais dit oh non je peux pas faire ça, quoi. Mais là la façon dont c'était proposé, c'était gentiment imposé, mais ça avait quand même un côté imposé où je me suis dit bon ok. Mais je suis parti vraiment de loin, parce qu'en plus à ce moment-là, je sortais de l'année et demie de harcèlement scolaire, et si on m'avait dit que je voulais faire du théâtre, j'aurais dit que c'était vraiment pas possible, et puis je ne me serais pas du tout imaginé. Donc il y a ce côté, pas se poser de questions. Je pense que ça, c'est aussi une clé, hein, essayer quand même de pas se poser de questions, de se fier vraiment à ses ressentis, et pas ses questionnements. Ça, c'est quelque chose, si on m'avait vraiment pu me dire ça, mais que j'ai pu le comprendre aussi, parce que c'est pas le tout d'entendre les choses, il faut pouvoir les comprendre. Mais si vraiment à l'adolescence j'avais pu entendre et comprendre que c'était plus important d'écouter ses ressentis que ses réflexions et ses cogitations, ça m'aurait sauvé la vie, j'allais dire. Mais en tout cas, ça m'aurait beaucoup, beaucoup aidé, oui, puis ça m'aurait évité de finir dans un état de dépressif, burn-out, un peu à l'âge de 15-16 ans. Mais. Ça, ce truc-là est vraiment du ressenti. Puis c'est vrai que quand on a des ressentis, justement, bah, avec la haute sensibilité, ces ressentis plus forts, bah, c'est bien parce qu'on peut les entendre mieux. Alors c'est vrai que ça paraît bizarre et des fois c'est pas explicable. Alors on se fige avec ça, on se dit, mais non, je peux pas écouter ça, je peux pas expliquer. Il n'y a pas forcément besoin d'expliquer. Et puis comprendre les limitations, parce que moi aussi j'avais ce côté de vouloir tout comprendre au niveau de l'intellect. J'arrivais pas à comprendre que l'intellect pouvait être limité. Et pour moi, l'intellect primait sur tout, c'est-à-dire les ressentis, non, c'était, si on pouvait l'expliquer, oui, mais donc ça rentrait dans quelque chose d'intellectuel, et sinon, non. Et ce côté-là, vraiment, de faire confiance en ses ressentis, et puis de bien conscientiser que nos ressentis, ils nous veulent du bien, quoi. C'est pas des choses qui veulent nous mettre des barrières ou des obstacles, même si ça peut nous sembler comme ça dans certaines situations, parce qu'on est dans un cadre où c'est pas en adéquation d'écouter ses ressentis et puis de faire ce qu'on attend de nous. Mais à la base, si on était bien aligné au début, ça nous veut que du bien. Donc ça, je pense que c'est... Après, je pense que je digresse un peu.
Non, mais c'est très intéressant, parce que effectivement, vous qui êtes un cas très à part, on va dire, dans le sens où vous avez... une très grande intelligence, un cerveau qui fonctionne beaucoup plus vite que la moyenne, et en même temps, vous avez énormément d'émotions aussi. J'imagine que vous avez dû d'abord commencer à réfléchir en vous disant effectivement, non mais les émotions c'est n'importe quoi. Et au final, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est de vous dire, ok, j'ai une Ferrari dans la tête, mais en fait ce qui compte vraiment, c'est l'émotionnel. C'est intéressant, je trouve, comme discours.
Oui, l'émotionnel et puis le sensitif. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que la Ferrari, si on prend l'analogie, c'est vraiment les fois le coup de couper le contact. Hein, quoi. C'est ça d'ailleurs qui m'a sauvé, je pense. Enfin, j'emploie beaucoup de mots sauvés, mais je l'ai quand même vraiment vécu comme ça, parce que j'étais dans un état, c'est-à-dire que l'année de mes 17-18 ans, quand j'avais 17-18 ans, plutôt l'année de mes 18 ans, mais enfin l'hiver de ces années-là, il y a vraiment un moment où je me sentais vraiment très 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 mal, parce que il y avait tout, puis ça se traduisait physiquement, c'est-à-dire que j'avais un grand retard de croissance, je n'avais pas de puberté, c'était comme si tout était bloqué, et dans ma tête c'était saturé, vraiment saturé. Je ne pouvais plus lire deux lignes d'un livre, même à ce moment-là, vraiment, parce que c'était saturé, tout était trop, toute pensée était trop, parce qu'il y avait tout le temps des cogitations perpétuelles qui ne s'arrêtaient jamais, donc je ne pouvais plus rien rajouter. Et à ce moment-là, où j'ai été comme, bon, ça s'est aidé par rapport à des rêves et par rapport au fait que j'habitais à la montagne, alors que j'avais toujours habité en ville, là, je m'étais retrouvé à la montagne dans un cadre calme, hors saison. Et donc d'un seul coup, ça s'est senti, enfin c'est comme si je devenais fou, enfin, il y avait quelque chose qui était en surchauffe, et pour moi vraiment il y avait un danger vraiment de péter les plombs, on va dire, enfin je sais pas exactement ce que c'était, mais il y avait un gros danger de surchauffe, et comme si de cramer la machine, on va dire, hein, comme le cerveau, dans le ressenti c'était un peu comme ça, et puis d'avoir réussi à déconnecter, c'est-à-dire d'avoir débranché, ou si on prend la Ferrari, couper le contact, ou si on prend que c'est un ordinateur, débrancher l'ordinateur, ne plus chercher à comprendre tout ce qui se passe dedans, ne plus chercher à comprendre pourquoi il y a ces millions de fenêtres là, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça, non, juste aller à la source et débrancher pour retrouver le calme et repartir d'un truc pacifié, parce que là c'était juste plus possible, mais c'était vraiment un mécanisme de survie. Mais comme pour moi, en plus, tout se concevait dans l'intellect, j'avais vraiment l'impression de faire un suicide en faisant ça. Mais c'était une espèce de... Il y avait une nécessité, vraiment, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se serait passé quand j'ai pété les plombs, tout ça, c'est pour mettre des mots. Mais en tout cas, il y avait une grosse... Il y avait un gros problème, j'allais dire, qui se manifestait, et ça arrivait à quelque chose qui était plus récupérable, voilà, comment je peux le dire avec des mots le plus concrets possible. Je sentais que j'allais arriver à un état qui était plus récupérable, il fallait vraiment, en mécanisme de survie, que je déconnecte et que je fasse le vide complet. Et ça s'est manifesté aussi dans le rêve à ce moment-là, parce que je faisais toujours des cauchemars où j'étais poursuivi, je ne sais jamais ce qui me poursuivait, mais sans arrêt, toutes les nuits. Et puis là, à un moment, je me suis retourné, et je me suis dit, je ne peux plus faire ça, je suis épuisé, il faut que, à la limite, hein, si vous voulez me poursuivre, c'est-à-dire c'est ça, mais c'est au niveau de couper l'intellect, c'était pareil, se retourner puis dire, bon, peu importe qui vous êtes ou tout ça, mais vous pouvez m'attraper, enfin, je veux dire, mais je ne pourrais pas continuer de toute façon comme ça, donc ou je perds tout, ou ça s'arrête, mais il faut que ça s'arrête.
Une forme de lâcher prise, en fait.
Oui, la course poursuite et tout ça, il faut que ça s'arrête. Et là, quand je me suis retourné, en fait, tout s'est pacifié, tout le décor est tombé comme ça, comme si ça l'avait arraché, puis derrière, il y avait du calme, du vide, du silence, dans le rêve, ça s'est fait comme dans le concret, on va dire, hein, puis vraiment dans le plan physique, parce qu'après, du coup, en quelques mois, j'ai poussé de 20 cm, j'ai de la puberté, enfin, tout dans mon corps s'est débloqué, et c'est une montée de croissance assez incroyable, du coup, en très peu de temps, et puis tout a changé, tout mon rapport au corps, j'avais plus du tout ce côté très, très sous stress, très sous pression, et puis en ne se souciant vraiment que de l'intellect, ou alors vraiment, il faudrait qu'il y ait un sacré problème qui empêche le reste, qui empêche même l'intellect de fonctionner pour que je me soucie du reste du corps.
Est-ce que vous avez l'impression, parce que quand je vous écoute, moi j'ai l'impression que finalement, ce cerveau qui marche extrêmement vite, extrêmement bien, est devenu, a pris le contrôle de vous, en fait, et que c'est devenu comme une forme d'addiction de vouloir toujours le faire fonctionner, en fait, réfléchir, faire des liens... Et que ça annihile, entre guillemets, tout le reste de votre être.
Ah oui, il y avait ça. C'est vrai que c'est intéressant de développer ça, puis on ne sait pas non plus, comme l'œuf et la poule, on ne sait pas ce qui commence, parce que je pense que c'était amplifié par le fait que je n'aimais pas dormir, parce que dormir, c'était des cauchemars, c'était quelque chose qui n'était pas reposant. Donc du coup, je ne voulais pas de repos. Donc il y avait cette addiction à l'intellect qui carbure aux nouveaux trucs et tout ça, à toujours apprendre des choses et tout. Mais en plus, je voulais pas le repos, puisque le repos pour moi, c'était pas du repos, c'était de poursuivre tout ça. Mais à la fois, je pense que si je ne trouvais pas le repos, c'est justement déjà parce qu'il y avait toute cette activité-là dans l'intellect. Donc à un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne veut pas se reposer parce que c'est pas vraiment du repos, mais c'est déjà parce qu'on ne se repose pas que quand on se repose, c'est pas du repos. En tout cas, voilà, c'est arrivé à un point vraiment, oui, assez extrême, tout ça. Mais c'est le côté, je pense, bah, c'est toujours pareil, le côté d'être rassuré. Je pense toujours que c'est le point clé, parce que je pense que le problème qu'il y avait derrière quand même tout ça, c'était un peu la peur. C'est ce qui se manifestait d'ailleurs dans les rêves, hein, la peur de ce qui me poursuivait. Et puis la peur la peur de manquer quelque chose. Je ne voulais pas dormir parce que j'avais peur de manquer quelque chose. Et je voulais apprendre toujours plein de trucs, parce que comme s'il y avait... enfin, il y avait toujours une pression. Donc c'est vrai qu'il y a plein de conseils comme ça pour donner, ben, on va prendre pour HPI et HPE en même temps, mais c'est ce côté vraiment, mais c'est une espèce en plus d'hygiène mentale, enfin de, où toujours savoir que c'est génial de pouvoir partir dans des réflexions très très rapides comme ça, ben, comme quand j'étais enfant, où vraiment ça fusait dans tous les sens, puis j'aimais beaucoup justement apprendre des choses, mais rien qu'en les voyant sur le côté, et puis en pensant à toutes sortes d'autres en même temps. Ça s'assimilait sans vraiment que j'y prenne. Mais j'aimais beaucoup suivre plusieurs conversations en même temps, suivre plusieurs choses comme ça qui se passaient. Et pour peu, je les assimilais mieux que si je portais vraiment mon attention, parce que c'est comme si ça mettait en place plusieurs manières d'apprendre en même temps, et qu'elles se nourrissaient l'une l'autre. Donc ça solidifiait bien, et il y avait une espèce de griserie, oui, vraiment, c'était très grisant de pouvoir connecter tant de choses si vite et si diverses et de façon, mais se rappeler toujours qu'on n'est pas juste un intellect et qu'on est tout un corps, et que oui, utiliser ça avec parcimonie, ben, je veux dire, c'est pareil un peu que, je sais pas, que le sport ou les jeux vidéo ou d'autres choses, c'est-à-dire que ça peut, c'est bien d'en faire, mais faut faire des pauses et faut sortir de ça, faut pas vivre tout le temps que là-dedans, faut prendre conscience du tout. Et puis c'est vrai que bon, après, oui, bah, effectivement, s'accueillir et puis avoir la confiance en soi, hein, parce que après, je pense que bon, ça c'est aussi autre chose, c'est valable pour tous les adolescents, qu'ils soient HPI, HPE ou non, mais ce côté où adolescent, il y a beaucoup trop de comparaisons aux autres, hein, qui entraînent souvent un manque de confiance et tout ça, et que bah, je sais pas, après, ça va parler à certains, pas à d'autres, mais déjà ce truc quand on se compare pas, puis qu'on part donc sur notre confiance en nous, parce qu'on est nous, et que nous, c'est pas, c'est unique, caractère à la fois semblable et à la fois unique. Je sais que des fois, quand on est jeune, c'est assez difficile. Moi, j'avais tendance en tout cas à basculer trop vite. Bon, on m'avait en plus bien fait vivre ce côté cas unique, donc j'avais une propension assez forte à me dire que voilà, j'étais unique dans mon genre, il n'y en avait qu'un comme moi, mais à la fois, des fois aussi, de me dire oh ben non, ça c'est un peu dans ma tête, en fait je suis comme tous les autres, et que c'est en fait un peu, c'est au milieu, c'est équilibré, c'est-à-dire qu'on est quand même semblable tout en étant unique, mais ce caractère unique qui fait qu'on ne peut pas se comparer aux autres et tout pour avoir confiance, et c'est quand même beaucoup mieux d'avoir confiance en quelqu'un qui a un caractère unique, que plutôt qu'une réplique si populaire ou je sais pas quoi soit-elle, qui est déjà fait ou qui. Ça me paraît quand même plus valorisant ou plus précieux d'être quelqu'un d'unique avec des spécificités, plutôt que d'être un être.
Interchangeable.
Oui, interchangeable, c'est ça, et puis modelé selon des critères en plus changeants.
Et que la
Là,
société
ça
nous
n'aurait pas
donne
grande
régulièrement.
valeur, donc ça a quand même beaucoup plus de valeur de s'écouter soi, puis d'être dans son unicité, dans son, oui, dans sa singularité. Et ça, et puis en plus, c'est ça aussi la confiance, je pense qu'elle peut aller là, c'est que oser sa singularité, mais vraiment avoir confiance en sa singularité. Mais pour ça, vraiment, on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand on commence à aller en cette voie-là, on voit des choses qui émergent, qui arrivent de nous, qu'on n'imaginait pas forcément, parce que si on cherche trop à se formater, on va dire, on peut passer un peu à côté, on pas ressentir vraiment bien qui on est finalement, parce qu'on n'est pas dans le bon contexte, on ne s'autorise pas assez à être pleinement soi, ou en tout cas à être vraiment qui on est, donc on peut du coup manquer de confiance parce qu'on dit, ah ben oui, mais si on prend les critères de la norme et du groupe et tout ça, ah ben oui, mais moi je fais pas ça bien, ou ça, c'est très, je suis très moyen et tout ça. Mais parce qu'on touche pas l'endroit où on peut avoir plus de moteur, enfin plus
De
de talent,
talent.
de joie, d'élan, de talent, enfin, tout ce qui peut se révéler en nous si on ose vraiment sa singularité et si on se sort vraiment de la comparaison. Et de la... Mais donc l'HPI, ce que je disais surtout, c'est c'est contrasté parce que sur certaines choses, on va lui dire qu'il est très intelligent, qu'il fait très bien certains trucs, et puis il y a d'autres choses, ça peut être notamment dans l'aspect pratique. Je ne sais pas ce qu'on peut dire au côté manuel ou le côté social ou tout ça, on peut au contraire le renvoyer, au contraire, là il est très bas ou très en retard ou tout ça. Donc il a ce côté où la comparaison, elle est pas. Enfin, faut sortir vraiment des comparaisons pour bien s'accueillir et pas non plus se survaloriser parce qu'on fait mieux certaines choses et pas se dévaloriser. Après, c'est assez étonnant parce que souvent, alors le HPI, quand même, il y a souvent ce truc quand même de manquer de confiance, on a dit tout à l'heure, mais manquer d'estime de soi, souvent. On voit souvent ça. C'est-à-dire que le HPI, il y a des trucs qu'il fait beaucoup mieux que les autres, beaucoup plus vite et tout ça, mais il ne se valorise pas plus pour autant. Bon, certains, si, mais il y a quand même beaucoup de profils où il ne se valorise pas ça. Mais par contre, pour tous les trucs qu'il ne fait pas bien, là, il se dévalorise beaucoup, syndrome de l'imposteur en plein, et puis... et donc, il va surtout voir le côté où... Voilà, qui de ce qui ne va pas, mais bon, mais l'hyper, enfin, on va dire peut-être l'humain fait ça un peu de manière générale, mais c'est particulièrement prononcé, comme c'est le cas, hein, puisque l'hypersensibilité, finalement, c'est juste que tout est particulièrement prononcé, tout est particulièrement intense, hein, mais c'est pas différent en soi, c'est juste plus intense, plus prononcé. Bon, après, selon les contextes, ça peut révéler des spécificités particulières, mais sinon, c'est juste avoir un moteur, un peu moins qui soit à la fois qu'il y a un fonctionnement plus subtil dans le cas de la haute sensibilité aussi, parce que c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas parlé de ça aussi, la finesse et la subtilité des ressentis, pas seulement l'intensité ou la force, mais aussi le fait qu'il y a des ressentis donc plus fins et plus subtils. Et donc, bah voilà, la personne hautement sensible, souvent, elle veut tellement essayer aussi de faire bien et d'être aimée des autres et tout ça, et de tout ce côté, toute cette dimension cœur, on va dire, en tout cas, veut tellement être quelque chose d'harmonieux, pas de conflit et tout ça, qu'elle va toujours chercher à être parfait, enfin, en tout cas, au mieux, et puis donc va toujours se dévaloriser facilement dès qu'elle fait des choses pas bien, sans voir tout ce qu'elle fait bien, et sans voir tout ce que sa haute sensibilité lui amène de bien.
Et alors, ce qui est super aussi, c'est que vous avez créé une association en France en 2017 et en Suisse en 2019 qui s'appelle Surdoué Sens, donc pour aider les gens dans ces profils à se découvrir, à évoluer et à, entre guillemets, exploiter leur plein potentiel. Quelle est la vocation du coup de cette association? Qu'est-ce qu'on y fait? Vous avez des événements aussi?
Oui, bah alors la vocation au début vraiment c'était de rassembler, hein, parce que la première chose, enfin, c'était vraiment créé autour de la construction, c'est bizarre de dire construction, mais de l'élaboration d'un événement, vraiment d'un salon, donc avec et des conférences et un espace pour se rencontrer autour de stands avec des livres, de la documentation, des professionnels qui pouvaient parler du sujet, d'autres associations aussi notamment qui étaient invitées. Et puis donc la vocation c'est de faire du lien. Et puis faire se rencontrer différentes approches aussi du sujet, parce que tout de suite il y a eu cette approche très multidisciplinaire et arc-en-ciel du sujet donc de la douance et puis aussi de la haute sensibilité sans forcément douance, hein. Après, finalement, ça s'est développé sur un peu tous les neuroatypies, mais au début c'était vraiment donc HPI, HPE.
Super. Et donc le site, c'est surdouessence.com.
C'est CH.
CH, pardon,
Mais ça, c'est
surdouessence.ch.
CH. Alors, il y a un autre site français enfin, français, je dis, parce qu'avant, il y avait surdouessence.fr et surdouessence.ch. Mais on n'a pas renouvelé le domaine surdouessence.fr, donc le site qui était avant surdouessence.fr est maintenant surdouessence.weebly.com. Donc, à peu près surdouessence.com, mais le site principal maintenant, c'est surdouessence.ch.
C'est top. Eh bien, je mettrai toutes les informations dans la vidéo. Merci beaucoup, Alban.
Merci, Carole.